France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On a tout.
Allez, action !
S'il sera encore mieux, c'est de rien dire.
Un petit ciné-club aux Pays-Bas. 6 personnes dans la salle. Je me présente, je suis Orson Welles, metteur en scène de radio, de théâtre, de cinéma, romancier, journaliste et dessinateur. Et je suis navré que vous soyez si peu et que je sois si nombreux. Ils seront 2 ce matin pour faire le tour de ce maître de l'illusion. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Orson Welles, 1915-1985, 40 ans après sa disparition, la Cinémathèque française organise l'expo colossale à la démesure de son sujet du 8 octobre au 11 janvier. Bonjour Nicolas Pariser.
Bonjour.
Cinéaste, cinéphile, votre regard est précieux pour peut-être descendre Welles de son piédestal de monument et le redéfinir comme un grand cinéaste moderne qui annoncera les autres, Kubrick inclus. À vos côtés, un critique également passionné de Welles. Bonjour Elias Erodi.
Bonjour.
Pour évoquer aussi la personnalité médiatique, l'homme de radio, l'acteur, toutes ses transformations, vérité et mensonge de cet artiste hors norme. Enfin, les sorties de la semaine dominées par le retour de Paul Thomas Anderson aux commandes d'une bataille après l'autre. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Come sei noiosina, anche tu.
Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta.
Perché non ci crede più?
Perché non sa voler bene.
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene.
E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda.
Perché non sa voler bene.
De la plus belle italienne de Tunisie à l'actrice aux 150 films, qui accédera grâce au Guépard de Visconti à une carrière internationale, authentique, indépendante, engagée, solaire. Claudia Cardinale, la Cardinale, est partie cette semaine, Laurent.
Oui, Christine, dans les célèbres « Je me souviens » de Georges Perec, on peut lire ceci. « Je me souviens que Claudia Cardinale est née à Tunis ». Ou en tout cas en Tunisie. Alors avec Perec qui disait vrai sur le lieu de naissance de l'actrice, je me suis souvenu d'elle à l'annonce de son décès. Je me souviens de la jeune fille à la valise où face à Jacques Perrin, sa beauté de 22 ans irradie littéralement. Je me souviens que face à Belmondo dans Cartouche, elle était une sauvageonne lumineuse. Je me souviens du bal du Guépard de Visconti, autant que de son apparition dans 8 et demi de Fellini. Je me souviens que dans Les Pétroleuses, CC tient tête à Bébé, mais que c'est décidément un mauvais film. Je me souviens que la Cardinale a toujours dit non à la nudité à l'écran, et je me souviens qu'en la matière, pour Il était une fois dans l'Ouest, c'est donc Sergio Leone qui a dû aller se rhabiller, en quelque sorte. Je me souviens qu'elle a tourné dans le dernier film de Manuel de Oliveira, Gabo et l'ombre, aux côtés de Jeanne Moreau et de Michael Lonsdal. Je me souviens qu'à la mort de Delon, c'est elle qui trouva les mots les plus touchants. Je me souviens enfin qu'un jour, elle déclara à propos de son métier d'actrice « Que Dieu préserve parmi nous les ironiques, ceux qui aiment la vie plus que leur travail, et surtout les fous. »
Ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles.
Une signature déjà dès son deuxième film, La Splendeur des Amberson, Orson Welles a existé avant de faire des films, enfant prodige, monte Shakespeare très tôt, orphelin 15 ans, il part en Europe, s'immerge dans le théâtre et la magie. Orson a existé avant Welles, Elias Erodi, mais c'est déjà presque un récit légendaire.
Oui, il faut dire que Orson Welles, c'est d'abord quelqu'un qui a construit sa légende par le récit qu'il a fait de sa vie.
Ouais.
Ce dont on est sûr, c'est que c'est un enfant du Midwest, il est né dans le Wisconsin, il a grandi à Chicago, il est aussi orphelin, il a perdu sa mère en 1924, il est né en 1915, donc à 9 ans, il a perdu son père en 1930, il passe sous le tutorat du docteur Bernstein, et après la mort de son père, il part en Irlande, où il force la porte d'un théâtre local, le Gaiety Theatre, où il incarne son premier rôle professionnel, le Juif Sus. J'aimerais dire aussi que c'est quelqu'un d'assez prodigieux. Il publie son premier livre en 1934, à 19 ans, oui. Everybody's Shakespeare.
Oui, avec même ses dessins dans le livre.
Avec ses propres dessins, c'est quelqu'un qui a aussi aspiré à devenir peintre.
Oui.
C'est pour ça qu'il va en Irlande avant de devenir comédien et d'apprendre la magie. Et puis aussi, il réalise en 1934 son premier court-métrage, The Heart of Age, et tout s'accélère à la suite. En 1935, il a son premier rôle principal au Federal Theatre.
Oui.
Et sa première émission de radio.
Alors, justement, à la radio, on y arrive. Donc, de jumper déjà qu'il a 20 ans sur CBS qui l'engage pour une série hebdo. Ouais. Un coup de maître radiophonique qu'il adapte un roman d'émancipation de H.G. Wells, d'ailleurs, qui prophétise l'arrivée des Martiens sur Terre. C'est la guerre des mondes. On écoute un extrait.
Chers auditeurs, nous interrompons notre programme pour un flash spécial du service intercontinental d'information. C'est en effet aujourd'hui, à 19h40 heure locale, à l'observatoire de Mount Channing, situé dans l'Illinois à Chicago, que le professeur Falls a remarqué une activité inhabituelle à la surface de la planète Mars. Des explosions d'origine gazeuse qui se produisaient à intervalles réguliers. L'observatoire a immédiatement procédé à une analyse spectrographique et cette analyse a mis en évidence d'énormes quantités d'hydrogène qui semble se diriger vers notre planète à très grande vitesse. Vous comprendrez qu'un phénomène aussi exceptionnel justifie un bouleversement de nos programmes.
Bon, Elias Erudi, on a raconté beaucoup de choses sur cette panique dans tous les États-Unis, mais il faut un petit peu remettre la réalité.
Baisser la pression.
Oui. Oui, tout à fait. En fait, là, ce qu'on entend, c'est la première émission d'une série radio consacrée à la guerre des mondes. En fait, à l'époque, Orson Welles, avec sa troupe, le Mercury Theatre, qui fonde en 1937, il a une émission sur les ondes de CBS. Oui. Et où ils font plusieurs séries d'adaptations de grands classiques de la littérature. Et donc là, ça se rapproche un peu du docu-fiction, en quelque sorte.
Oui, exactement.
Avec cette imitation d'une émission radio. Il faut cependant dire que évidemment, la panique qui habitait les États-Unis n'a pas eu lieu. Il y a eu tout au juste quelques appels pour vérifier l'information auprès de CBS, mais qu'ensuite Orson Welles a pu continuer ça. Et dès le deuxième épisode, en fait, la Dupri est passée.
Mais on a imprimé la légende, c'est ça?
On a imprimé la légende.
Et surtout, Nicolas Parizier, d'ailleurs, c'est grâce à cette guerre des mondes que la RKO le remarque et que le président de la RKO va lui permettre de réaliser son premier film, Citizen Kane, à la mort du milliardaire Foster Kane, un grand magnat de la presse. Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. On écoute un extrait. Là,
Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. Well, Kane is a hero and a scoundrel, a no-account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theater when Citizen Kane plays here.
Un premier film, Nicolas Parizier, longtemps considéré comme le meilleur film du XXe siècle. C'était un peu surcoté, ça, non?
Alors, surcoté, je ne sais pas. En tout cas, c'est, je pense, le plus gros succès critique de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que c'est vraiment, même si à l'époque il y a eu des critiques négatives, on connaît d'ailleurs même la critique de Jean-Paul Sartre dans Les Temps modernes, mais en gros, c'est un film qui en 2-3 ans, après la guerre, et assez vite dans le milieu des ciné-clubs, chez les cinéphiles du monde entier, considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma, et c'est quelque chose qui va durer au moins 40 ans. Et donc, il faut voir vraiment l'avènement d'Orson Welles comme cinéaste, comme l'arrivée de quelqu'un qui fait, dès son premier film, le plus grand film de l'histoire du cinéma, ce qui est évidemment quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis. C'est-à-dire que ça n'est ni arrivé à Tarantino, ni arrivé à personne. Ouais. Mais je dirais, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la carrière d'enfant prodige, en fait, d'Orson Welles. Orson Welles, c'était un enfant prodige. Et Citizen Kane est moins son premier film que sa dernière œuvre d'enfant prodige. C'est-à-dire que ce qui frappe évidemment quand on voit Citizen Kane aujourd'hui, beaucoup plus que ses films suivants, c'est de voir qu'à 25 ans, à l'âge où certains font des courts-métrages, voire rien du tout, il fait un film qui est déjà très ambitieux, très achevé. Et moi, la réserve que j'aurais par rapport à ce film, c'est que ça ressemble quand même un peu à un travail d'enfant prodige, c'est-à-dire que c'est extrêmement virtuose, extrêmement intelligent, extrêmement impressionnant, mais ça manque quand même, disons, de vécu, de chair, etc. Ouais. C'est comme quand on voit parfois à la télévision un jeune pianiste de 11 ans qui fait du Bach ou du Beethoven à toute vitesse, on est impressionné. Enfin, à un moment donné, on revient quand même à des interprétations de gens un peu plus mûrs. Et pour moi, la carrière d'Orson Welles commence avec La Splendeur des Ambersons.
Non, voilà. Mais pourtant, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'il n'a pas appris le cinéma, Welles. C'est-à-dire qu'il propose des choses incroyables, déjà flashback, fondu, caméra subjective. Il a juste regardé, c'est peut-être une légende encore ça, 49 fois La Charge héroïque de Ford, oui. Mais il n'a pas appris le cinéma.
Ça, apprendre le cinéma, je pense que malheureusement ou heureusement, on n'apprend pas le cinéma.
Il expérimente plein de choses.
Il y a quelque chose de génial, évidemment. Il y a plein de choses géniales dans Citizen Kane. Après, il faut pas oublier qu'il ne l'a pas fait seul. Et notamment, il y a eu d'ailleurs un film de David Fincher sur le scénariste de Citizen Kane. J'ai oublié le titre du film. Sur Herman Mankiewicz, le frère de l'autre Mankiewicz.
Joseph
Mankiewicz. donc toute la construction en flashback, etc. Le choix de ce sujet. Il a écrit le scénario avec quelqu'un. Ensuite, il a travaillé avec un chef opérateur génial, Greg Toland, c'est ça. Et donc, la question, disons, des clairs-obscurs, des contre-plongées, des choix de focales, c'est-à-dire qu'on voit je ne sais pas si c'est la première fois, mais enfin, disons, dans le cinéma américain de cette époque-là, on ne voyait pas les plafonds, par exemple. Et là, on voit des plafonds, il y a des contre-plongées. Donc, il a une manière d'expérimenter des choses, mais enfin, il avait quand même une équipe assez exceptionnelle autour de lui, parce que, justement, il était déjà célèbre. Et donc, il a eu à sa disposition, disons, toute la mécanique, toute l'ingénierie hollywoodienne de l'époque, et il s'en est servi comme d'un enfant prodige, mais avec quand même des collaborateurs brillants, dont le dernier, après j'arrête, évidemment Bernard Herrmann, dont c'est le premier travail au cinéma, mais Bernard Herrmann qui était lui aussi quelqu'un de très précoce, de génial, et qui est passé donc de la radio, il travaillait à CBS, et qui a fait sa première grande musique de film pour Citizen Kane, et tout comme Orson Welles, il n'a pas fait son meilleur travail avec Citizen Kane. C'est-à-dire que ce soit Welles ou Bernard Herrmann, et beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce film, Citizen Kane est évidemment le film le plus célèbre, le plus renommé, mais je pense que ça n'est que, disons, que le point de départ de carrière magnifique ensuite. Voilà.
Elias Erodi, c'est pourtant un film qu'on étudie à l'université de cinéma. J'ai croisé une étudiante l'autre jour, il dit on est resté un an sur ce film.
Ouais, j'ajouterais que dans les collaborateurs illustres, il y a aussi le cinéaste Robert Wise, enfin le futur cinéaste Robert Wise, qui est le monteur du film et qui sera le monteur de La Splendeur des Ambersons. Moi, je pense que ce qui...
Et qui sera le réalisateur de West Side Story, surtout.
Exactement. Ouais. Et puis West Side Story, La Chose d'un Autre Monde, etc. Ouais. Ce que j'ajouterais, c'est que quand Orson Welles arrive aux commandes de Citizen Kane, il jouit d'un contrat inédit
oui.
Au sein des studios américains.
Avec un Final Cut.
Qui lui accorde donc, pour la première fois, le Final Cut, un très jeune cinéaste, 25 ans.
Qui retrouvera jamais avec les studios oui, plus tard.
En tout cas, il le prévoit pour 3 films,
ouais.
Notamment un film sur Joseph Conrad qui sera jamais fait, et puis pour La Splendeur des Amberson, où on peut le voir, il a perdu le Final Cut.
D'ailleurs, au cœur des ténèbres, il avait une idée magnifique, c'était une caméra subjective pendant tout le film. Il faut un peu, vous m'avez dit en préparant cette émission, Nicolas Parisière, le descendre de son piédestal de monument du cinéma. Il ne faut pas faire peur aux gens. Wells, c'est super accessible, mais c'est aussi un auteur.
Oui, quand je dis le faire descendre de son piédestal, ce n'est pas du tout pour dire que c'est moins bien
non.
que ce qu'on pense. C'est évidemment un cinéaste génial, mais ce n'est, je dirais que ce n'est pas un monument comme John Ford ou Fritz Lang, voire Fellini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, malheureusement, pour lui, n'a pas eu l'œuvre qui correspond, disons, à ses ambitions. Donc, c'est une œuvre qui est, je dirais pas inégale, mais qui est étrange, qui est atypique, qui est bizarre, qui, par certains aspects, est parfois très en avant sur son temps, parfois ouais. très en retard. Donc, c'est un cinéaste absolument passionnant, mais dont l'œuvre n'a pas la plénitude même de celle d'un Jean-Luc Godard. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, pendant 50 ans, va construire une œuvre pièce après pièce, mais plutôt quelqu'un qui va, quand il en a l'occasion... avoir des traits de génie, inventer des choses, et puis moi ce qui me touche le plus, transmettre une vision du monde, de sa propre poétique, de sa propre sensibilité, avec son rapport à Shakespeare évidemment, avec son rapport à la beauté, à la politique, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une œuvre très diverse, qui est très compliqué à appréhender dans sa totalité, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, la moitié de sa filmographie n'existe pas.
Parce oui. que, inachevée.
Elle est soit inachevée, soit restée dans sa tête.
Oui. Enfin,
voilà. Donc, disons, la réputation monumentale qu'a Orson Welles, elle date de Citizen Kane, mais en fait, disons, l'œuvre d'Orson Welles a arrêté d'être monumentale quand il a eu 26 ans.
Écoutons ce qu'il racontait aux étudiants à Paris, Welles.
Now you have other reason to be happy that you live in France.
Il y a d'autres raisons pour lesquelles vous devriez être heureux ici.
Because although you read in the papers every day that the French cinema is falling down.
Parce que bien que vous lisiez tous les jours dans les journaux que le cinéma français est en train de se
s'effondrer. I began reading that first about 1947.
Je crois que la première fois que j'ai lu ça, c'était en 1947.
The fact is that unlike other countries, you are the authors of your films. If you ever are lucky enough to make them.
Contrairement aux autres pays, vous êtes les auteurs de vos propres films si vous avez la chance de les faire.
And that is not true in America.
Ça n'est pas le cas dans la plupart des pays au monde.
And it is something to make a movie and to feel that you are the author légalement.
Et c'est quelque chose de faire un film et de se savoir légalement l'auteur.
Et à propos du cinéma français, Nicolas Parisère, Welles adorait Guitry.
Oui, alors ça peut paraître anecdotique,
oui,
mais
non,
tout à l'heure, quand j'ai entendu le générique parler de La Splendeur des Amberson,
ouais.
Évidemment, c'est ouais. une idée magnifique qu'il a pompée à Sacha Guitry, et il aimait énormément le roman d'un tricheur. Et je pense que ces deux cinéastes qui ont beaucoup de points communs, notamment dans leur amour de l'histoire et une idée, j'aimerais bien y revenir un autre jour peut-être, mais pas aujourd'hui, sur la manière qu'ils ont d'être des cinéastes historiques, mais de recréer l'histoire sans donner l'impression, par exemple, comme dans un film comme Barry Lyndon, qu'on y est. C'est-à-dire que ce soit chez Welles ou chez Guitry, ce sont des films historiques, mais avec un recul, en tout cas une distanciation qui fait que c'est la vision d'Orson Welles ou de Sacha Guitry de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment deux points communs importants. Et puis aussi, l'autre point important, c'est que ce sont deux artistes qui ont fait des films, mais qui s'intéressaient à beaucoup d'autres médias, et notamment à la radio,
ouais.
à la télévision, et on le sait peu, mais Guitry est mort dans les années 50, donc il n'a pas fait de télévision, mais il en aurait sans doute fait s'il avait vécu un peu plus longtemps, et il a fait de la radio. tout comme Wells, et je ne saurais trop conseiller. C'est sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Cobuz, etc. Il y a un documentaire, enfin un making-of de Si Versailles m'était compté, où Guitry raconte le tournage, le montage de Si Versailles m'était compté, qui est quelque chose d'absolument passionnant, de magnifique. Et c'était une émission de radio à l'époque. Et donc ce sont deux hommes de radio, deux hommes de cinéma, qui ont, disons, ils avaient soif de tous les médias qui apparaissaient. Ils auraient évidemment adoré Internet, etc.
Et Elias Herodi, on va parler de l'acteur aussi, parce qu'il se ménageait des sacrées arrivées au cinéma, parfois au bout de 30 minutes, une voix bien sûr, et un physique sans cesse maquillé, parce qu'il ne s'aimait pas en fait.
Oui, si vous avez des complexes, sachez que Orson Welles en avait un aussi, et que ce complexe se portait vis-à-vis de son nez.
Oui.
C'est un réalisateur, un acteur qui joue sans cesse avec un postiche. La seule exception notable, c'est dans Le Troisième Homme de Carol Reed, sans doute le plus grand film dans lequel il a joué acteur.
Ouais.
Et puis c'est un acteur qui suit une carrière un peu à l'image de sa carrière de réalisateur, qui est loué en Europe, il joue pour certains de ses maîtres, comme Sacha Guitry par exemple dans Si Versailles m'était compté, ou bien pour Abel Gance dans Austerlitz, mais il joue aussi pour ses disciples, en quelque sorte, Claude Chabrol dans la décade prodigieuse. Et puis chez Pasolini dans La Ricotta, qui est sans doute son plus grand film
européen. Là, vous citez des bons films, mais parfois il faisait des mauvais films pour gagner de l'argent et pour faire ses propres films aussi.
Exactement, aux États-Unis, il a cette figure beaucoup plus ambiguë. C'est une figure de la culture populaire. Non seulement il joue dans le Muppet Show, il ne faut pas oublier que son dernier rôle au cinéma, c'est dans un dessin animé Transformers. Et c'est aussi une figure de la télévision, quoi. Il vivait aussi de spectacles de magie à Las Vegas. Il est très présent
chez Houdini qui l'a formé d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Il est très présent dans le Dick Cavett Show. Il a son propre projet d'émission télévisée, The Orson Welles Show.
Ouais.
Mais il a aussi des collaborations notables, je dirais, avec Richard Fleischer, où il joue des rôles d'avocat qui accordent une grande part donc, au monologue, à la place de l'acteur.
Parole.
Et puis chez John Huston, qui est quelqu'un avec qui il collabore à plusieurs reprises, souvent dans des films mineurs de John Huston, je pense notamment à Casino Royale qui est assez faible, mais quelqu'un avec qui il a une vraie relation et à qui il va confier le rôle principal de The Other Side of the Wind, ce grand projet inachevé qui a été achevé récemment.
Nicolas Parisien, vous vouliez ajouter quelque chose?
Une toute petite chose en général, c'est que je pense qu'il faut aussi ne pas victimiser trop Orson Welles, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en tout cas au début de sa carrière a eu des cartes énorme, et c'est en grande partie lui qui s'est auto-sabordé, notamment sur le montage de La Splendeur des Ambersons. Le film était très long, il durait 2h15, 2h20, et à l'époque, mis à part pour des films très exceptionnels comme Au tournant porte le vent, c'était pas possible pour un studio de sortir un film de 2h20. Et donc ils ont demandé à Orson Welles, bon, il faut que tu coupes, et il n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu, il n'a pas laissé...
Elias, vous voulez...
Oui, je dirais que pour le montage de La Splendeur des Amberson, en fait, le micmac avec la RKO, c'est qu'en fait, Orson Welles partait faire un voyage diplomatique où il tourne It's All True au Brésil pour éviter que le Brésil passe à l'axe pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'a pas pu se rendre dans la salle de montage. Et donc, il y a aussi...
C'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu que...
En tout cas, en termes de chronologie...
Mais il y avait le téléphone. C'est-à-dire qu'il a fait le mort. Il a fait ce qu'on appelle « il a fait le mort ». Et donc, comme il a fait le mort... Et disons, la confiance que les studios avaient en lui s'est brisée à ce moment-là. Voilà. Et dernière chose, il a été aussi quand même victime du macartisme moment, et donc ça explique aussi, voilà.
Absolument.
Là, pour le coup, il a été victime.
Orson Welles, un grand cinéaste du suspense aussi, tel ce plan séquence d'ouverture de La Soif du Mal, 1958 à Los Robles, ville frontière entre les USA et le Mexique. Un notable meurt dans un attentat. Un plan séquence commenté par le réalisateur Nicolas Boukrieff.
Ça commence par le gros plan d'une bombe avec un minuteur qui est réglé sur un temps qu'on a du mal à percevoir. Donc on sait qu'à partir de là, une bombe va exploser. On voit le tueur qui passe dans le cadre et on voit un couple un peu ivre très loin derrière des arcades. Le tueur va vite installer la bombe dans une voiture, c'est dans un plan très large, et s'enfuit. Arrive le couple qu'on avait vu pourtant tout très loin dans le cadre, qui arrive, ils sont visiblement un peu éméchés. La fille est un peu délurée, le gars est plus âgé qu'elle. Et là, la caméra monte très haut dans le ciel, donc on comprend à ce moment-là qu'on est sur une grue, et la voiture s'en va, et la caméra se met à voler. Donc là, Wells prend définitivement le point de vue de Deus Ex Machina et de Dieu, et la voiture passe dans des quartiers, on est dans une ville avec des arches, la voiture s'arrête pour laisser passer des passants, il y a une ambiance de fête, on voit des gens, tout ça est sur un son de musique, il y a de la musique, les gens ont l'air de danser, donc c'est une ville un peu étrange où les gens ont l'air d'être totalement en fiesta. Et puis la voiture, une fois que les passants sont passés, la voiture repart, s'arrête à nouveau pour un nouveau passage piéton. Il y a toujours cette musique en fond. C'est une ville qui a l'air assez étrange. On sent une ville de Riviera, quelque chose comme ça. Et arrive un autre couple dans l'ombre. Et là, d'un coup, la caméra se rapproche de ce couple, oublie la voiture avec la bombe. Et ce couple, c'est Charlton Heston, portant moustache, et Janet Leigh, 5 ans avant qu'elle se fasse massacrer sous la douche de Alfred Hitchcock. La voiture passe devant eux. On se dit, tiens, ça va peut-être exploser là. Non, ça n'explose pas. Et la voiture disparaît. Et on accompagne ce couple qui déambule très calmement dans cette ville de fête, qui passe devant une première voiture, qui est la voiture de la bombe, qui n'explose toujours pas. Puis là, le couple en question passe devant, en pleine rue, il y a quelqu'un qui est avec un troupeau de chèvres. Donc c'est vraiment une ville dont on a du mal à comprendre la nature. Et puis d'autres voitures passent, et derrière eux, la voiture avec la bombe est à peine à 5 mètres. Nous, évidemment, on est toujours dans l'idée que la bombe va exploser, donc ça crée un suspense énorme. Et d'un coup, la caméra, tout en accompagnant le couple et la voiture en arrière-champ, se rapproche d'une guérite et on comprend qu'on est à un poste frontière et qu'on est à la frontière mexicaine. Et Charlton Heston et Janet Leigh continuent de marcher avec la voiture, cette fois qui est juste à côté d'eux, donc le suspense est total, puisque si elle explose, elle détruit le casting principal. En même temps, on sait qu'il y a un minuteur. Et enfin, le couple arrive devant la partie américaine de la frontière. On comprend qu'on est à la frontière avec le Mexique. Charlton Heston, on comprend à ce moment-là qu'il est policier. C'est un policier mexicain. Il est avec Janet Leigh, qui, elle, est américaine. Et la voiture est juste à côté d'eux, avec cette bombe. Et là, le douanier s'intéresse au chauffeur de la voiture. Et la jeune fille délurée passe son temps à dire « Mais je ne comprends pas, j'ai ce tic-tac dans la tête, j'ai ce tic-tac dans la tête. » Et elle parle alors que Charlton Heston et Janet Leigh sont juste à côté. Donc ça nous rappelle la présence de la bombe. Donc le suspense continue. On se demande à quel moment la bombe va exploser. La voiture s'en va. Et Orson Welles nous montre avec sa caméra, lui passe la frontière sans problème. Donc ça prouve toujours qu'il est Dieu. Et là, on tombe, il y a une autre sorte de figurants qui sont bien habillés, c'est beaucoup plus sérieux, on n'est plus au Mexique, il n'y a plus de chèvres. Charlton Heston et Janet Leigh s'embrassent, et au moment où ils s'embrassent, on entend l'explosion, ça s'appelle un baiser explosif, et là on coupe le plan séquence pour tomber sur un zoom très rapide sur la voiture qui a explosé. Voilà à peu près le plan séquence d'Orson Welles. C'est l'illustration du suspense en un seul plan, parce que personne n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire des plans séquences n'importe comment. Dans l'idiot Black Panther, vous avez des plans séquences incroyables faits en effets spéciaux qui sont très spectaculaires et parfois très beaux. Oui. Mais je veux dire qu'à l'époque, faire cette chose-là était une chose qui était inédite. Et Orson Welles prouvait qu'il n'était pas que l'auteur qu'on pouvait imaginer, qu'il pouvait être aussi un grand cinéaste de suspense. Ce plan a fait école, il a été cité dans The Player, il est cité de Robert Altman, il est cité dans Phantom of the Paradise de Palma. C'est un plan qui a marqué énormément son temps.
Démonstration brillante de Nicolas Boucreyev, vous êtes d'accord avec ses propos sur la modernité de ce plan séquence, Nicolas Paris ?
Oui, absolument. Avec une petite, pas un bémol, mais c'est que un cinéaste qui a fait beaucoup de plans séquences et on le sait peu, c'est Sacha Guitry, notamment dans ses adaptations théâtrales. Il y a un plan séquence absolument extraordinaire dans Faisons un rêve. Alors c'est un plan séquence qui ne fait que suivre Sacha Guitry dans son salon.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pas tout à fait pareil.
Parce que là, il y a un vrai suspense quand même.
Il y a un suspense. Mais la question du découpage, c'est une question qui est passionnante. C'est quand est-ce qu'on commence un plan, quand est-ce qu'on le finit, est-ce qu'on
découpe. Le suspense chez Guitry, c'est quand est-ce qu'il va arrêter de parler. De toute façon,
c'est un peu ça. Non, pas du tout. Le suspense de Guitry, c'est est-ce que sa maîtresse va venir chez lui.
Absolument.
Dans Faisons un rêve, c'est est-ce qu'elle va venir, est-ce
c'est
qu'elle
vrai.
Va venir. Il y a un vrai suspense. La description par Nicolas Boucreyev du plan séquence de La Sauve du Mal est magnifique, mais Orson Welles, un jour, on lui a demandé, mais alors, quand est-ce que vous faites des plans longs, quand est-ce que vous faites des plans courts. Et il disait, quand j'ai une très bonne équipe, je fais des plans longs, et quand j'ai une équipe qui est moins bonne, techniquement, je fais des plans courts. Et c'est peut-être la différence entre Monsieur Arkadine et La Sauve du Mal, qui est son film suivant, qui sont deux films qui sont assez proches dans le style. Ce sont deux films, on va dire, baroques, dans le style. Monsieur Arkadine, c'est fait avec 3 bouts de ficelle, donc c'est des plans très courts. Et La Soif du Mal, c'est fait avec une équipe hollywoodienne remarquable, et donc c'est des plans très longs. Mais en réalité, on voit tout de suite que c'est le même cinéaste qui l'a fait. C'est-à-dire que les plans soient courts ou que les plans soient longs, en fait, il y a la même virtuosité. Mmh. Voilà.
Et si on terminait avec l'auteur avec lequel tout a commencé, c'est Shakespeare. William, on comprend cette obsession, Elias, pour...
Ouais, je pense que si on parle de Orson Welles et Shakespeare, il faut voir la modernité de la façon dont Orson Welles perçoit Shakespeare. J'ai l'impression
comment il a coupé ses textes aussi.
À la fois comme metteur en scène et comme réalisateur, il s'évertue à tirer Shakespeare du répertoire classique. L'un des coups d'envoi de la carrière d'Orson Welles, en 1936, la mise en scène de Macbeth avec des acteurs exclusivement africains-américains, qui est la première pièce de répertoire avec des acteurs africains-américains, qui s'appelait Voodoo Macbeth, puisque l'intrigue se passait donc à Haïti. En 1938, il fait Jules César dans le contexte de l'Italie fasciste. Donc il y a cette contemporanéité de Shakespeare qui est centrale. Et dans les films, c'est cette même liberté d'adaptation qui prime. Macbeth en contexte écossais, en 1947. La trame d'Othello qui est peu ou prou modifiée, scindée par l'enterrement d'Othello au début comme à la fin.
Oui, mais au-delà de ça, Elias, est-ce qu'il y a des thèmes qu'on retrouve et chez Shakespeare et ça transpire dans son œuvre au cinéma aussi?
C'est ce qui... Le baroque est quelque chose de central chez Orson Welles, autour de cette question de l'illusion. À la fois en tant que metteur en scène, la façon dont il dupe le spectateur sans cesse, mais aussi la façon dont ses personnages tragiques se nappent dans une illusion. C'est central dans Othello, c'est central même dans Falstaff,
exactement.
Un film qui compile
trois
pièces de Shakespeare autour de ce bouffon. Et puis d'autres choses, c'est un cinéaste qui est attiré par la grivoiserie. C'est aussi la raison pour laquelle il fait Falstaff et cette façon de sortir aussi Shakespeare de son piédestal en accentuant la bouffonnerie, la grivoiserie. C'est un film qui est centré autour du fou du roi, Falstaff.
Un dernier mot, Nicolas Parizet.
Oui, c'est-à-dire que quand on adore un artiste comme Welles adorait Shakespeare, on finit par avoir une vie qui ressemble à l'œuvre de l'artiste qu'on a admiré.
Exactement. On rappelle juste, c'est très important, l'expo à la Cinémathèque française à Paris.
Jusqu'au 11 janvier.
Pour célébrer donc ce 40e anniversaire avec plus de 400 œuvres, des photographies, des archives, scénarios, dessins, installations, extraits de ces films. Il y a beaucoup de débats autour des films auxquels vous participerez, Elias.
Oui, moi je présente Rogopag le 25 octobre. Qui est donc un film collectif où il y a La Ricotta de Pierre-Paolo Pasolini.
J'espère qu'on a dépoussiéré Welles et qu'on l'a rendu accessible à tous. Un dernier mot, si quelqu'un ne connaît pas Welles, par quel film il doit commencer, Nicolas Parizère?
Ça c'est une grande question. Alors, je dirais Monsieur Arcadine.
D'accord. Et vous, Elias?
Je suis assez d'accord. Et La Dame de Shanghai. Ah.
Très bien. Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve après Stéphane Escher, Poussière d'or, pour les sorties.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain, vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre.
France Inter, on aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer cette revue de film par une bataille après l'autre, le nouveau film donc du cinéaste américain Paul Thomas Anderson, ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, c'est Leonardo DiCaprio. Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Paul Thomas Anderson s'inspire très librement du roman Vinland de Thomas Pynchon. Une fable politique, mais avec l'énergie d'un cartoon, dit DiCaprio, et c'est bien vu. Un film tendu, drôle, tragique, tout cela à la fois sur l'Amérique, ses traumas, ses opposants, un casting 5 étoiles. Bon, Sean Penn en fait des caisses, mais Benicio del Toro est un magnifique sauveur. Chase Infinity, une révélation, et bien sûr DiCaprio qui va sortir de ses fumettes de shit pour sauver sa fille. C'est le réveil du père, parce que oui, c'est aussi un film très émouvant.
Oui, alors, il a récemment déclaré, Paul Thomas Anderson, je ne vais maintenant voir les films que s'ils me font rire. Je crains qu'il applique un peu trop cette maxime à ses propres films. Bon, c'est ma crainte, parce que The Master ou Licorice, moi, j'ai pas beaucoup ri, c'est pas le propos. Là, il y a beaucoup, beaucoup de volonté, quand même, d'être drôle, d'être farcesque, ouais. D'être dans le
Quelle heure est-il, notamment ?
Voilà, bon, donc, franchement, il y a des gags récurrents, il y a des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément le cinéaste qui m'intéresse le plus, et en même temps, je crois que c'est un film qu'il faut replacer dans son contexte, c'est-à-dire dans maintenant, son pendant serait Eddington, et c'est beaucoup plus réussi qu'Eddington. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire que il a une façon subtile, complexe de montrer les choses de l'Amérique actuellement, sans renvoyer les deux camps dos à dos, parce que ça sera un peu trop facile, et c'est pourtant ce que fait Eddington. Donc effectivement, malgré ses quelques réserves, et là un peu la longueur du film aussi, ça reste un film de Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire un des grands cinéastes américains actuels.
Époustouflant. Classe moyenne de Anthony Cordier. Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses futurs beaux-parents, mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d'un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison, pourtant tout s'envenime.
Oui, alors il y a 20 ans, exactement, Anthony Cordier nous proposait Douche froide. Moi, c'est un film qui m'est resté, que j'aime beaucoup. J'avoue que les évolutions du cinéaste Cordier me laissent un peu de marbre, ou un peu comme ça, perplexe. Alors, pourquoi pas s'intéresser à la lutte des classes? C'est décidément un sujet qui reste de l'actualité et qui peut faire des belles choses. Encore faut-il qu'on ait quelque chose de singulier ou de percutant à dire. Quand on commence son film avec une énième scène de débouchage de toilettes bouchées par le prolétaire du coin, et que évidemment ça va provoquer toute une série de catastrophes, je ne suis pas sûr que la singularité soit au rendez-vous. Le reste de la farce est à l'aune de ce commencement assez peu singulier, comme si Cordier au fond d'ailleurs était plus fasciné par la belle villa avec piscine qu'il filme avec beaucoup d'ostentation que le sujet du film. Bref, ça fait un film bancal et étrangement complaisant.
Reconnaître les faiblesses, surtout dans la deuxième partie, c'est vrai, mais avouer avoir beaucoup ri à ce jeu de massacre qui assume complètement la caricature. Certes, elle annule sa charge politique
totalement,
au bénéfice de réparties percutantes et de grands acteurs aux commandes. On rappelle leur nom, Laurent Lafitte, Élodie Bouchez ou Ramzi Bedia.
Ils sont un peu en roue libre.
Non, classe moyenne. Continental 25 du cinéaste roumain Radu Jud. Un film tourné à l'iPhone, est-ce qu'il faut le dire ou pas,
les
images sont super bien en plus.
Bah oui.
Orsolia est huissière de justice en Transylvanie, elle doit un jour expulser un sans-abri qui vit dans le sous-sol d'un immeuble du centre-ville transformé en hôtel de luxe. C'est inspiré de l'histoire vraie d'un sans-abri qui se suicide suite à une procédure d'expulsion, et toute la culpabilité donc de cette femme qui va chercher des réponses dans différents milieux. On y croise aussi des dinosaures, c'est une charge ironique, politique, un conte moral, une farce sarcastique. On connaît l'humour dévastateur de Radu Jud au milieu du tragique, Laurent.
Oui, c'est donc tourné avec un iPhone, et pourquoi ne pas le dire, en 15 jours, et pourquoi ne pas l'ajouter, parce que bon, tout ça, c'est des... Alors peut-être que ça plaira aux financiers, c'est sûr, mais enfin bon, il faut dire que le résultat est assez saisissant, cette façon, c'est un peu moins mon coup de cœur en tous les cas, au moins de la semaine, parce que cette façon de montrer, notamment de commencer le film avec ce SDF qui n'en est pas, hein, d'ailleurs, dire, puisqu'il a, il a un logement. On finit par dire un peu des bêtises. Mais donc ce clochard, mais avec un logement, on le voit errer dans un dinoparc. Un dinoparc, c'est un endroit avec des dinosaures en plastique qui ouvrent la gueule comme ça. C'est un début extrêmement saisissant, parfaitement réussi, et tout le portrait acide. Alors là, il y en a vraiment de la farce, mais du burlesque, des choses très très dures sur nos sociétés. Le film est un peu en regard de Europe 51 de Rossellini en son temps. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis lors, en fait, et on peut toujours s'en inquiéter.
Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux, Denis Mukwege, médecin congolais et futur prix Nobel de la paix au péril de sa vie, a sauvé des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'est un film hommage, un récit admiratif, la cause est belle, la démarche sincère, malgré Laurent, une mise en scène académique.
Ben oui, on est obligé quand même de le dire, évidemment que le sujet est là, évidemment qu'on s'incline devant cette figure incroyable de médecin, seulement la mise en scène épaisse, les dialogues d'une naïveté parfois confondante ou d'une grandiloquence qui n'a pas sa place ici, le recours à un récit parallèle fragmenté qui ne tient pas la route, et un casting absolument inégal, hélas, avec Isaac de Mancollet et Vincent Macaigne en tête.
Qui joue le médecin belge qui va l'accompagner.
Ouais. Bref, tout ça flotte beaucoup et on aurait pourtant aimé dire du bien d'un tel sujet.
Panopticon, premier film du géorgien Georges Sikarulidze. Lorsque le père de Sandro décide de devenir moine orthodoxe, adolescent introverti, se retrouve livré à lui-même, il se débat au quotidien pour faire coexister son devoir envers Dieu, son besoin d'amour et son idée de la virilité. Tabou, xénophobie, violence, et une référence, ça ne nous aura pas échappé, à l'Antoine Doinel des 400 coups.
Oui, alors ces nouvelles venues de Géorgie ne sont guère rassurantes, à vrai dire, hein, parce que le portrait de ce frustré sexuel tenté par l'extrémisme de droite, xénophobe et violent, bah, ça fait froid dans le dos, d'autant plus que les adultes qui l'entourent sont soit des mères plutôt asservies et des hommes absolument rigoristes. Bref, le constat est pour le moins dur, glacé, glaçant, mais absolument réaliste. Et la bouffée d'air pur vient étrangement, effectivement, de Truffaut François et de Doinel Antoine, auquel il est fait clairement, allusion, comme si tout d'un coup effectivement il y avait une lumière et que cette lumière pouvait aussi passer par le cinéma, ce qui est toujours évidemment très rassurant. C'est la grande réussite de ce premier film.
Put Your Soul on Your Hand and Walk, c'est un film de Sepideh Farsi, la réalisatrice iranienne qui a eu un an d'échange à distance avec une jeune femme, Fatma Hassona, qui est une jeune photographe journaliste en Palestine, à Gaza, qui vivait à Gaza et qui a été tuée par une attaque israélienne en avril 2025. Le sourire, la dignité de cette jeune femme, sa résistance et son insoumission, ses rêves aussi au travers de cet écran.
Oui, c'est un peu la chronique d'une mort annoncée, hein, oui. À travers des conversations téléphoniques qui sont le seul moyen possible désormais d'évoquer Gaza, de façon intime en tous les cas, et avec en accompagnement quand même les images des chaînes de télé en boucle. Et du coup, ce film est aussi une très belle, très nécessaire, très désespérée réflexion sur le cinéma en temps de guerre, à l'heure des impasses et des limites, notamment du tout info.
Rembrandt, Pierre Scholler, avec Camille Cotin et Romain Duris. Claire et Yves, physiciens de formation, travaillent dans le nucléaire depuis toujours. Lors d'une visite à la National Gallery, Claire va être bouleversée par trois toiles de Rembrandt. Cette rencontre avec ces trois œuvres magistrales va les changer à jamais. Elle va s'engager, elle, comme lanceuse d'alerte. Crise existentielle et angoisse climatique, un sujet ambitieux, certes exigeant, mais abstrait et presque hermétique.
Où est donc passé le brillant auteur de L'exercice de l'État et d'un peuple et son roi, et un avis de recherche qui est lancé, le cinéaste pertinent de nos mœurs politiques et de leur généalogie? Oui, Pierre Scholler, c'est ça, je pense, je parle toujours au présent, même si cette fois, il semble s'intéresser à notre avenir à travers l'écologie. Mais quelle étrange façon d'en parler, d'abord en allant chercher une variation sur le syndrome de Stendhal, ou comment la peinture de Rembrandt peut faire basculer une ingénieure pro-nucléaire en décroissante sans aucune nuance. La preuve, c'est qu'elle finit par casser son compteur électrique à coups de masse. On peut penser quand même que les choses peuvent se faire autrement. Bref, le film regorge de cette simplification et c'est bien dommage, mais on ne doute pas que Pierre Scholler n'en restera pas là.
Enfin, la reprise de la semaine, le début d'une grande saga avec un cow-boy et un cosmonaute vers l'infini et au-delà, un 13h de l'animation signé Pixar. C'est Toy Story, bien sûr, et deux festivals, Laurent.
Oui, deux festivals. Vous irez en Moselle, au Val de Fensch, à Famec, pour le Festival du film arabe du 5 au 12 octobre prochain. Et puis, à l'autre bout de la France, dans l'île de Corse, à Bastia, très exactement, pour le Festival Arte Marais. Le thème, c'est l'amour, l'amour, l'amour.
Les cadeaux pèsent lourd ce matin. Ils auront deux films deux livres chacun.
Oui, absolument. Ouais. D'abord, la réédition beau livre chez Capricci des formidables entretiens entre Peter Bogdanovich et Orson Welles. C'est tout à fait comparable au fameux Hitchbook, c'est-à-dire au livre d'entretien entre Hitchcock et Truffaut, avec des questions très très pertinentes de Bogdanovich qui demande « Mais comment vous avez fait pour tourner Macbeth en si peu de temps, en 23 jours ?» Et Welles lui répond « Parce que j'en avais pas 24 de tournage. » Et il y a des choses comme ça qui sont à la fois très, très humoristiques, mais aussi bien plus profondes et bien plus intéressantes. On vous conseille aussi la lecture de ces formidables entretiens dans, je le répète, un vrai beau livre. Et puis, on le disait, Welles, c'est à la Cinémathèque très prochainement. Il y a un catalogue fait par la Table Ronde qui est magnifique, magnifique, qui donne très, très envie d'aller voir cette exposition.
Magnifique.
Avec, par exemple, le merveilleux texte d'Aragon sur Citizen Kane, qui dit tout son amour pour ce film avec les mots d'Aragon, bien évidemment.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Nicolas Parisère, parce que vous entamez le tournage de votre prochain film lundi.
Merci.
Et il y a un très joli titre qui s'appelle Un peu avant minuit. Merci d'être venu en Récréation Wells un petit peu avec nous. Merci.
Merci à vous.
Merci Elias et Rudy pour votre érudition. Merci beaucoup à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Merci, au revoir.